Vous êtes sur RTL.
RTL, il est 6h30.
RTL Matin.
Avec Agnès Bonfillon.
Et avec Diane Douzillet. Bonjour Diane.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
À la une de ce dimanche 2 août, une attaque à l'arme blanche à la prison d'Arlière.
Trois gardiens ont été blessés, dont un sérieusement hier après-midi par un détenu muni d'un couteau au cours d'un parloir. Les visiteurs qui se trouvaient sur place ont dû être évacués. À Gatlandais, l'agression s'est donc déroulée juste avant que le détenu ne soit reconduit en cellule.
Oui, il est alors 15h30, le détenu vient de terminer son parloir avec sa femme. Trois surveillants entrent pour le fouiller avant de le ramener en cellule et c'est là qu'il les attaque à l'arme blanche, comme l'explique Philippe Abîme, secrétaire général du syndicat FO Pénitentiaire.
Bah, apparemment, c'est une arme artisanale qui s'est fabriquée en cellule. On parle de poinçon ou de lame de rasoir et je pense que c'est avec ça qu'il les a agressés.
Les trois surveillants sont blessés, deux légèrement. Le troisième est atteint, lui, à 2 cm de la carotide. Emmené par hélicoptère à l'hôpital de Marseille, son état s'est stabilisé et il a pu rentrer chez lui dans la soirée. Pour Philippe Abîme, cela prouve une fois de plus que les surveillants ne sont pas assez armés en détention.
On n'est pas du tout armés, parce qu'à l'heure actuelle, un surveillant, il n'a que son sifflet et un Motorola. Là, s'ils avaient eu une bombe lacrymo, bah, il n'y aurait peut-être pas eu trois blessés.
Pour le moment, on ne sait pas pourquoi ce détenu est passé à l'acte. Il était à l'isolement, incarcéré pour des affaires de meurtre et il avait déjà été violent contre le personnel pénitentiaire. Il est aujourd'hui en garde à vue.
Agathe Landé pour RTL.
Comme prévu, journée noire sur les routes hier.
760 km de bouchons cumulés ont été enregistrés peu après midi, principalement sur l'A7 et l'A10. Aujourd'hui, circulation encore très difficile. Bison futé hisse le drapeau orange dans le sens des départs, rouge dans certains départements. C'est vert au niveau national dans le sens des retours. Et si vous prenez la route, pensez à vous hydrater régulièrement. Il fera encore très chaud aujourd'hui. Météo France maintient 13 départements de l'Est en vigilance orange pour canicule. Et de fortes chaleurs qui augmentent le risque d'incendie. Plusieurs dizaines d'hectares ont brûlé hier. 70 hectares de pins ont été ravagés par les flammes près de Saint-Marcel-les-Annonais en Ardèche. Plus de 200 pompiers et 4 canadairs ont été mobilisés. Le feu, dont l'origine est encore inconnue, a été fixé. Une cinquantaine d'habitants a dû être évacués. Tandis que dans le Gard, les flammes ont parcouru 36 hectares de pinèdes et ravagé une habitation en bordure de l'autoroute A9 entre Millau et Nîmes. 4 pompiers ont été blessés. Une enquête a été ouverte après la découverte de 3 foyers d'incendie. Si les incendies sont fréquents chaque année dans le sud, l'Île-de-France est également à risque. Les petits incendies de forêt se multiplient à Rambouillet ou Fontainebleau. Alors cet été, l'ONF et les pompiers multiplient les actions de prévention, Valentin Boisset.
L'herbe a bien jauni, au cœur de la forêt, la sécheresse est arrivée. Lucas et ses amis ont donc prévu le coup.
On fait un petit pique-nique à Fontainebleau. J'ai un petit cendrier de poche, on va rien faire cramer quoi. Avec la température qu'il fait, on sait que c'est vraiment l'idée la plus débile d'aller jeter tout simplement ces clopes pour ce sol quoi.
Pourtant, le groupe l'avoue, il leur est déjà arrivé d'allumer un feu de camp.
Quand je l'ai fait, c'est sur de la pierre, où ça a délimité la zone de feu et la zone de non-feu.
Pratique interdite qui se multiplie en Île-de-France, selon le commandant Joissard du SDIS de Seine-et-Marne.
80% des origines de feu sont d'origine humaine, avec des personnes qui ont pu allumer un bivouac, qui pensent l'avoir éteint correctement. Le feu va courir de 50 cm en dessous du sol et va se propager.
Selon lui, les incendies migrent peu à peu vers le nord et l'île de France. En cause, la sécheresse combinée à l'activité humaine. Les pompiers ont donc investi.
Nous avons des drones équipés de caméras thermiques qui permettent d'avoir l'origine des feux. Et puis vous avez une caméra optique qui permet également de faire une reconnaissance du pourtour du feu en cas d'éclosion d'un incendie.
Pas question pour le grand public. Pour autant de baisser la garde, afin de continuer à profiter des forêts en toute sécurité.
Le reportage de Valentin Boisset en forêt de Fontainebleau pour RTL. À ce propos, on apprend ce matin que l'origine humaine est privilégiée après l'incendie d'Anglette dans les Pyrénées-Atlantiques jeudi. Le feu avait ravagé 165 hectares de forêt et détruit plusieurs maisons.
L'autre crainte de l'été, Diane, c'est bien sûr la propagation de l'épidémie de coronavirus.
L'Organisation mondiale de la santé prévient, la pandémie sera probablement très longue. À ce jour dans le monde, plus de 17,6 millions de personnes ont été infectées et plus de 680 000 sont mortes. En sinistre position de tête, les États-Unis, avec un décès enregistré chaque minute dans le pays. De son côté, la Belgique a drastiquement restreint les libertés sociales afin de contenir la propagation du virus. Depuis Depuis mercredi, il faut faire ses courses seul et au maximum pendant 30 minutes. La bulle de contact, autrement dit le nombre de personnes par foyer, a été abaissée de 15 à 5. Des mesures qui rendent certains Belges perplexes, écoutez.
On impose aux gens de ne pas aller voir sa famille, ses amis. Moi, je trouve ça mais grave. Je pense que les gens en Belgique, je l'espère, tout le monde a compris ce qui se passe. Tout le monde a le sens civique. Donc, je pense imposer des règles de vie sociale, je trouve ça grave.
Comment vous faites, vous, avec cette histoire de bulle?
On essaye de s'y restreindre en faisant des choix. Alors, imagine une famille nombreuse. On a déjà calculé, nous, on le dépasse parce que moi, j'ai des enfants adolescents. Donc, on essaye de s'y restreindre, mais c'est compliqué. Ils se rendent compte, toi-même, qu'en 3 jours... on est passé de 15 à 5. Et les familles nombreuses, et les enfants, et les familles, ils ont des grands enfants. Donc on fait des choix. Choisis cette tante-là, choisis pas cette tante-là. Je n'arrive pas à saisir l'histoire de la bulle.
Propos recueillis par Victorien Villaume en Belgique pour RTL. Les autorités belges interdisent également depuis hier les voyages non essentiels vers plusieurs régions espagnoles, une région suisse et une française, la Mayenne, en raison de la situation épidémique. La Mayenne où le masque sera dès demain obligatoire en extérieur dans 69 communes du département.
La crise sanitaire a eu raison de la saison touristique. Paris est déserté par les étrangers et les professionnels s'inquiètent.
Dans la capitale, la moitié des hôtels restent fermés jusqu'à l'automne. Ceux qui sont ouverts travaillent à perte. Pour les mois d'avril, mai et juin, le chiffre d'affaires des établissements parisiens aurait chuté de plus de 90%. Le reportage de Juliette G dans le 12e arrondissement de la capitale.
Normalement, elle est toujours louée, celle-là.
Aucun touriste dans les chambres, ni au comptoir pour Omar, réceptionniste dans le 12e arrondissement.
D'habitude, à partir du mois d'avril jusqu'au fin juillet, même début, on est toujours complet. Et là, en ce moment, on se retrouve avec 20% de réservation, même moins. Donc, c'est vraiment une catastrophe, quoi.
L'établissement familial tourne à perte, mais le patron a quand même choisi de rester ouvert en juillet.
On a des charges fixes. Donc, on a préféré quand même d'avoir 5-6 chambres que de ne rien avoir, quoi. C'est toujours un petit plus comme ça qui nous aide pour payer au moins 50% de nos charges, quoi.
Dans le quartier, tous les rideaux sont baissés. Laurent, propriétaire d'un hôtel boutique, espérait une reprise avec le déconfinement. Mais les touristes ne sont pas revenus et c'est lui qui a quitté Paris.
Pendant les mois d'été, à partir du 15 juillet, on a essentiellement une clientèle touristique et essentiellement une clientèle étrangère. Donc cette clientèle est totalement absente. On ne peut pas rester ouvert sur une clientèle professionnelle ou française, puisque les Français vont plutôt aller sur des lieux de villégiature plutôt que venir visiter Paris. Ce n'était pas possible de maintenir le personnel ouvert.
Les hôteliers espèrent un retour des clients en septembre avec la reprise des salons, le Tour de France et Roland-Garros.
Juliette G pour RTL. Un mot de sport à présent avec d'abord la reprise du cyclisme. C'était hier la première étape de la route d'Occitanie. Une étape marquée par une victoire tricolore. Brian Cocard s'est imposé au sprint. En foot, Arsenal remporte la Coupe d'Angleterre face à Chelsea. Victoire 2-1. Le club se qualifie donc pour la Ligue Europa.
Et puis après le ballon rond, Diane, passons au ballon ovale avec le plus vieux trophée sportif de France.
C'est un bout de bois qui vaut de l'or pour tous les clubs de rugby du top 14. Je veux bien sûr parler du bouclier de Brennus. Il date de 1892. Faute de vainqueur cette année, le Stade Toulousain, dernier leader du championnat, l'a confié à un maître ébéniste afin qu'il soit restauré. Il faut dire que le trophée est souvent malmené, Pierre Collas.
On entre dans une petite salle ventilée de l'atelier. C'est là que Pierre Armango vernit la planche du bouclier de Brennus.
Alors je l'ai reçu dans un état mais vraiment très massacré. Les arêtes étaient très abîmées. Il y avait des coups partout. Ils ont même, je les soupçonne d'avoir fait un ventre glisse inversé sur la médaille.
Changement de salle, on retrouve la fameuse plaque en laiton où sont inscrits les noms de tous les gagnants du top 14.
Premier vainqueur, 1892, Racing Club de France. Et le dernier.
Alors le dernier.
Actuellement, le Stade Toulousain, 2019.
On peut remarquer que là, il n'y a plus de place. C'est-à-dire voilà. Qu'en dessous du Stade Toulousain, si je suis bien les lignes, on ne peut plus
c'est
rien
fini.
Mettre.
Comme on dit au rugby, la plaque est au taquet.
Pierre Armango fabrique aussi des ballons de rugby en bois, c'est sa spécialité. Alors avoir le bouclier de Brennus dans son atelier, c'est un honneur.
Ça fait 15 ans que j'y pense à peu près, depuis que je fais ces ballons. Ça a été beaucoup d'émotions, mais au début, je l'ai regardé. Il y avait tellement de travail que j'ai hésité quand même à commencer là, par quel bout j'allais attaquer. Quoi.
Le bouclier passera ensuite entre les mains des experts de la Ligue de rugby. Et après une ultime retouche, il retournera chez les derniers gagnants du top 14, le Stade Toulousain.
Pierre Collat pour RTL. Enfin, notez que Lewis Hamilton a une nouvelle fois écrasé la concurrence aux qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne. Il partira donc en pole position cet après-midi aux côtés de son coéquipier Valtteri Bottas.
On vous retrouve tout à l'heure, Diane, à 8h.
À 8h.
Avec plaisir. RTL, pour l'instant, il est 7h moins 20. Vous êtes nombreux hein, sur la route, moins qu'hier, mais quand même, prudence. Vous êtes soit dans le sens des départs, super, vous êtes chanceux, soit dans le sens des retours, c'est un peu moins drôle. Mais quand même, vous êtes très aimable de nous envoyer des messages, avec prudence évidemment. Par exemple, Oriana nous dit qu'elle est de retour de Toulouse, elle est sur la route avec ses deux petites filles. Eh ben, on lui dit un grand bonjour et on lui souhaite bonne route surtout. Et justement, on va parler des enfants. C'est l'heure de découvrir le coup de cœur du jour de Laurent Marsic. Le livre pour enfants a glissé dans la valise cet été. Aujourd'hui, c'est Le Petit Voleur d'Ombre de Marc Lévy. Un roman jeunesse de Marc Lévy. Oui.